100% d'Europe, Léa Lisa Westerhoff.
Bonjour à tous, Alaska, Patagonie, mais aussi les Alpes en Europe. Partout dans le monde, la fonte des glaciers s'accélère. Conséquence directe du réchauffement de l'atmosphère, ces sentinelles du climat ont perdu près de 10 milliards de tonnes de glace au cours des 50 dernières années. C'est ainsi qu'en août, l'Islande rendait hommage à son premier glacier officiellement déclassé, disparu en raison du réchauffement climatique. Et pour se rendre compte de cette lente catastrophe dans le sud du pays, depuis 10 ans, une école primaire se rend régulièrement au pied d'un glacier pour y effectuer des mesures et suivre son évolution. Le constat est sans appel, c'est le reportage de notre correspondant sur place, Jérémy Richard.
Géant de glace de 200 mètres d'épaisseur, le Sölheimajökull est un glacier dit de vallée, coincé entre deux flancs de montagne au sud de l'Islande et qui s'étend au total sur environ 10 000 mètres de long et près de 2 000 mètres de large. Lilja Einarsdóttir, 11 ans, qui se dresse face à lui pour la première fois, est émerveillée.
C'est vraiment très beau, mais en même temps tellement triste de voir à quel point le glacier a fondu.
Chaque année, depuis 2010, la classe de 5e de son école de Kolsvöllur, petit village d'un millier d'habitants à 60 km à l'ouest du glacier, suit de près son évolution en prenant photos et mesures et en les comparant avec les années précédentes. Des relevés sur la terre ferme, d'abord à l'aide d'un appareil GPS, d'un mètre déroulant et de deux drapeaux jaunes. Puis les enfants, accompagnés par deux secouristes, car la zone est instable, se rendent en zodiac sur une lagune brunâtre formée par les eaux de fonte jusqu'au front du glacier, haut de plusieurs dizaines de mètres. Un lac inexistant il y a 9 ans, rappelle Lilia.
Quand on a commencé ici, il n'y avait pas la moindre trace d'eau. Donc le glacier était vraiment grand.
Au plus près de la glace, le Sölheimajökull fond goutte à goutte à vue d'œil, alimentant même quelques ruisseaux. De retour sur le sable, quelques savants calculs des distances collectées, une soustraction, et le résultat tombe. Le glacier a reculé de 11 mètres cette année, significatif, mais loin des 110 mètres records enregistrés l'an passé. Jan Stefansson, ancien enseignant de l'école fraîchement retraité, est à l'origine du projet et continue d'accompagner les élèves. Il explique la raison des variations parfois importantes d'une année sur l'autre.
Cela dépend plus ou moins du temps et de la façon dont le glacier se rompt. Parfois, une grosse partie du glacier se détache, tombe dans l'eau et vous obtenez une très très grosse mesure.
Les élèves notent le résultat de leur relevé sur une petite pancarte solidement fixée dans le sable noir à l'aide de pierres en contrebas du sentier qui mène au glacier à plusieurs centaines de mètres. Jökla Mælingar, mesure du glacier en islandais, y est écrit en noir sur fond blanc. Et pour chaque année figure un chiffre peint à la main correspondant au recul annuel du glacier. Au total, l'école a vu le Sölheimajökull se retirer de 380 mètres depuis 2010, soit environ 40 mètres par an. À 12 ans, Birna Björnsdóttir a bien conscience de ce qui se joue sous ses yeux.
Eh bien, le réchauffement climatique, on se sent tellement mal quand tout part à volo. Si nous pensions que nous avions peut-être tort à propos du réchauffement climatique, quand on voit ça, c'est la preuve que non.
Les mesures, bien qu'imparfaites et non officielles, donnent une idée objective des changements en cours ici qui semblent s'accélérer ces dernières années. Et les scientifiques confirment la tendance. En 2018, le Sölheimajökull a été parmi les trois glaciers du pays à détenir le record de recul annuel environ 200 mètres, selon les données de l'Association de recherche sur les glaciers d'Islande. De par sa proximité avec Reykjavik, la capitale islandaise, située à moins de 3 heures de route, le glacier est très prisé des touristes. Daniel Soliti est écossais et guide pour la compagnie Icelandic Mountain Guide depuis 5 ans.
J'ai noté d'importants changements au cours de ces dernières années. Ce sont des changements assez subtils lorsqu'on est ici tous les jours, mais si on regarde où le glacier était et à quel point il a reculé, ce sont des changements majeurs. Le volume du glacier est beaucoup plus bas qu'auparavant. Il y a aussi beaucoup plus de crevasses sur le front et l'accès devient de plus en plus difficile.
Caractéristique distinctive de l'île nord-atlantique colonisée il y a 1200 ans, les glaciers recouvrent environ 11% de la superficie du pays. Mais la fonte bouleverse le paysage, les glaciers de vallée dont fait partie le Sölheimajökull se portent particulièrement mal. Hrafnildur Hafnestóttir est glaciologue à l'Institut météorologique d'Islande.
Au cours des dernières décennies, tous ont reculé. Aucun ne montre des signes sérieux de reformation. Et surtout, désormais, des lacs se forment devant plusieurs d'entre eux. Et la façon dont les glaciers reculent est liée à l'eau.
Depuis 25 ans, les quelques 400 glaciers islandais ont perdu 7% de leur volume total et pourraient avoir complètement disparu d'ici 2 siècles, selon les scientifiques.
En Autriche, ce sont 95 des 99 glaciers du pays qui sont en recul. Résultat, un projet d'aménagement d'un domaine skiable sur un glacier tyrolien suscite une vive polémique. Le débat a même débordé des frontières du Tyrol et de l'Autriche. Les explications de Céline Béal.
En septembre, plusieurs médias européens ont relayé des photos prises sur le glacier du Pitztal. Des pelleteuses en pleine action. Un glacier autrichien détruit pour étendre le domaine skiable, titrait un site spécialisé français. C'était en fait une exagération trompeuse, car pour l'heure, il ne s'agit que d'un projet. La photo montrait en réalité des travaux d'aplanissement des pistes qui existent déjà sur une partie du glacier. Mais derrière l'infox se cache un réel débat qui agite la société autrichienne, car quand il s'agit des montagnes, les esprits s'échauffent rapidement. Deux enjeux se retrouvent dans la balance. D'un côté, la survie économique de vallées alpines qui dépendent à 100% du tourisme. De l'autre, la protection d'écosystèmes rares et des réserves de glace dans une des régions les plus touchées par le réchauffement climatique. Or, le projet est colossal. 6 ans de travaux, plus de 130 millions d'euros pour installer 3 nouveaux téléphériques, creuser un tunnel et aménager 64 hectares de pistes, dont la majeure partie serait donc sur un glacier à plus de 3000 mètres d'altitude. Objectif, relier 2 domaines skiables entre eux. Les détracteurs de ce « mariage des glaciers », comme le surnomment les médias, dénoncent une bétonisation folle de paysages encore préservés, tout comme l'aplanissement prévu de tout un piton rocheux. Près de 150 000 personnes ont signé une pétition en ligne pour stopper le mariage. Ces défenseurs, eux, mettent en avant les gains pour le tourisme, 15% de rentrées supplémentaires avec un domaine skiable plus grand, contre 1% de perte de la surface du glacier, disent-ils. Au final, en mai, une étude d'impact sur l'environnement a été lancée. Ses résultats sont attendus fin janvier.
On n'arrête pas la science, direction la Turquie à présent pour vous parler d'Ada, le premier robot à l'aspect humain made in Turkey. Il fait la fierté du pays et sert dans tout un tas d'événements, même les plus incongrus, comme un mariage dans sa ville de naissance Konya au centre du pays où il a récemment servi de témoin. À terme, ces robots humanoïdes doivent être utilisés dans les centres commerciaux, les aéroports et même les hôpitaux du pays, c'est ce que promet son inventeur. Notre correspondante revient sur l'histoire de ce petit robot qui avait plutôt mal commencé à Nandlower.
La carrière scénique de Mini Ada aurait pu s'achever prématurément dans un fracas de pièces détachées. En décembre 2018, alors qu'il effectuait sa toute première sortie publique lors d'un festival dédié aux nouvelles technologies, le robot s'était lancé dans une chorégraphie un peu trop enthousiaste. Dans son élan humanoïde, Mini Ada a chuté, s'est étalé au pied de la scène, l'écran rond qui lui sert de tête fracassé sur le sol. On le retrouve pourtant, il y a quelques semaines, dandinant ses boulons au milieu des convives d'un mariage à Konya, ville du centre de l'Anatolie où ce robot est né. Mieux, Mini Ada était officiellement témoin des jeunes mariés, qui était une grande première pour un humanoïde en Turquie. Et la machine ne fait pas que s'amuser, elle travaille au nouvel aéroport d'Istanbul, guidant les voyageurs locaux et les touristes étrangers.
Mobil uygulamada web sitemizde ve eski dijital ekranlarda yazıyor.
Mini Ada fait partie d'une série de robots humanoïdes s'appelant tous Ada, un prénom féminin qui signifie « il », produit par la société Akensoft. Il y a 2 ans, cette dernière a ouvert à Konya une usine qu'elle présente comme la première au monde à produire exclusivement des humanoïdes en série. Ces robots sont destinés à servir le public dans des restaurants, des hôtels, des magasins, des aéroports, des concerts ou des hôpitaux. L'entreprise est très forte pour monter des coups de pub. On voit régulièrement ses robots sur les réseaux sociaux, servant du thé ou allumant un barbecue. Sur ses réseaux, Hackensoft insiste aussi beaucoup sur son logo « Made in Turkey ». Et ce n'est pas un hasard, au-delà de l'expression d'une fierté nationale, le « Made in Turkey » est un argument politique dont use ces dernières années le président Tayyip Erdogan et son allié du parti ultranationaliste. En ces temps d'offensive militaire en Syrie, le chef de l'État rappelle notamment presque chaque semaine que la Turquie produit désormais 70% de ses besoins en matière de défense, contre 20% lors de son arrivée au pouvoir il y a 16 ans.
C'est l'heure de feuilleter le courrier international de cette semaine. Aujourd'hui, c'est avec vous, Virginie Lepetit. Bonjour Virginie.
Bonjour Léa-Lisa.
À 15 jours des élections législatives au Royaume-Uni le 12 décembre, votre hebdomadaire consacre cette semaine deux articles à la campagne électorale. Et le premier, c'est l'accès à l'Internet haut débit.
Eh oui, ça peut paraître surprenant parce qu'on s'attend plutôt à des débats enflammés sur l'après-Brexit ou le NHS, le système de santé britannique. Mais la fibre optique et l'accès au haut débit ont surgi parmi les enjeux de la campagne. Pour une raison simple, le Royaume-Uni est sous-connecté. Le Labour a promis une reprise en main par l'État des infrastructures nécessaires et la fibre optique gratuite à tous les foyers et à toutes les entreprises d'ici à 2030. Et ça, ça divise la presse.
Et pourquoi est-ce que ça fait polémique ?
Ça fait polémique parce que c'est un enjeu idéologique. Alors d'un côté, vous avez le Guardian, ce journal de centre-gauche, qui lui est convaincu que l'infrastructure numérique du pays doit passer à la vitesse supérieure. Pourquoi ? Parce que c'est l'ossature sur laquelle repose un nombre croissant de services essentiels, le Wi-Fi dans les espaces publics, les réseaux électriques intelligents, le rechargement des véhicules électriques. Or ce réseau, il est quasi inexistant au Royaume-Uni. 7% seulement des foyers et des entreprises sont équipés, quand ce chiffre atteint 99% en Corée du Sud, 89% au Portugal et 71% en Espagne. Alors Boris Johnson a bien promis pendant sa campagne de connecter tous les foyers britanniques à la fibre, mais les travaillistes, eux, ont aussi promis la nationalisation du service. Une solution défendue par le Guardian, au vu des investissements colossaux, 15,3 milliards de livres, de la maintenance, de la nécessaire coordination à l'échelle nationale.
Mais alors le Télégraphe, journal conservateur, lui, n'est pas de cet avis.
Ah non, pas du tout. Le Télégraphe estime que le problème essentiel, c'est une concurrence trop peu développée. C'est précisément la concurrence, affirme le journal, qui permettra de faire baisser les coûts d'installation et d'accélérer le rythme. Et puis, pourquoi donner, je cite, à un gouvernement d'extrême gauche le pouvoir de contrôler Internet, de décider ce que nous pouvons regarder et de suivre nos activités en ligne ? Le Télégraphe reconnaît qu'il s'agit bel et bien d'une guerre idéologique, mais d'une guerre dans laquelle la cause de la liberté est en train de perdre face à la cause des cadeaux.
Alors l'autre article consacré au Royaume-Uni dresse le portrait de la ville de Douvres qui n'a jamais vraiment profité des richesses tirées de sa position stratégique aux portes de l'Union européenne.
Oui, Douvres, cet épouvantail souvent brandi pour illustrer le chaos d'une sortie sans accord, est désenchanté. C'est ce que raconte la London Review of Books dans un reportage mélancolique. Alors certes, le port voit défiler chaque année 12 millions de passagers, 3 millions de poids lourds, 2 millions de voitures, et ça c'est une affaire lucrative. Mais loin du port, dans la ville elle-même, il règne un sentiment diffus de marginalisation et d'abandon. Ici, rappelle le reporter, en 2016, 62% des électeurs ont voté pour le Brexit. Ici, les mesures d'austérité ont alimenté la colère et l'hostilité contre l'État. Ici, les coupes dans le budget et le système de santé, les fermetures d'écoles, la raréfaction des bus ont fait gronder. 3 ans après, l'état d'esprit est le même. Dans cette petite ville dont les habitants n'ont cessé de voir s'étioler l'emploi depuis 1973 et l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, le sentiment dominant, c'est que le Brexit n'apportera peut-être rien de bien, mais ils n'ont pas le sentiment qu'ils perdront grand-chose.
Alors on reste en bord de mer pour un dernier sujet plus surprenant, celui-là, une guerre des crabes qui oppose la Norvège à l'Union européenne.
Et oui, c'est un contentieux qui découle de la migration des crabes des neiges vers le nord. Alors ces crabes des neiges, ils sont originaires de l'Atlantique Nord et du Pacifique Nord et ils vont de plus en plus vers le pôle depuis les années 90 à cause évidemment du réchauffement de la planète. Or ce crustacé à la chair blanche et délicate se vend aujourd'hui à des prix astronomiques, notamment au Japon. Donc tout le monde veut le pêcher, mais la Norvège craint qu'en cédant les droits sur les crabes, elle incite ses concurrents à convoiter d'autres ressources et notamment les ressources pétrolières.
Comment ça ?
Et oui, parce que tout dépend de la classification qu'on donne aux crabes. Si l'espèce est classée parmi les ressources des fonds marins plutôt que parmi les poissons, l'autorisation de les pêcher ouvre la voie à d'autres choses, et notamment le pétrole. Mais l'UE rétorque que ces pêcheurs, eux, ont parfaitement le droit de pêcher les crabes en vertu d'un obscur traité de 1920 sur le Svalbard. Donc au mois d'octobre, l'Union européenne a accordé une vingtaine de licences de pêche des crabes des neiges à une poignée d'États membres. Selon le ministre de la Pêche norvégien, les capitaines des navires devraient prendre garde en entrant dans les eaux de la Norvège. Ils risquent d'être arrêtés, a-t-il menacé sur la chaîne publique NRK.
Affaire à suivre donc. Merci Virginie. Ces récits et bien d'autres sont à découvrir cette semaine dans le numéro de Courrier International Amérique latine. Pourquoi ça craque ? Et sur votre site internet.
Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous allons, grâce à ce disque, essayer de tirer ensemble le maximum de qualité sonore de votre chaîne Haute Fidélité.
Sit back, relax, and close your eyes.
C'est vendredi, on retrouve le choix musical de Vincent Teval. Bonjour Vincent.
Bonjour Léalisa.
Vous nous parlez aujourd'hui du premier album de la chanteuse polonaise Piku.
Eh oui, je vous emmène à la rencontre de Piku, de son vrai nom Magdalena Stroy, une jeune polonaise installée à Paris et qui publie un premier album intitulé 5-3-2-1, comme un compte à rebours avant un voyage vers les paysages du nord de la Pologne et les étendues neigeuses qui entourent l'hiver la ville de Sopot, où elle a grandi, très marquée par son environnement, les atmosphères, les bruits, les sensations. Et pour traduire tout cela, il y a la musique. Le piano d'abord, que Magdalena Stroy apprend au conservatoire dès ses 8 ans. Le ukulélé et la kalimba ensuite, qu'elle apprivoise quand elle s'installe à Paris à ses 22 ans. C'est avec ses instruments et quelques sortilèges électroniques que Piku compose son premier album, survolé par une voix très singulière avec des textes où se croisent le français, le polonais, l'anglais et même le japonais. Quant à Piku, ça veut dire « petit » ou modeste en finnois, et ça rime bien avec ses chansons miniatures et minimalistes.
C'était la chanteuse polonaise Piku et cet extrait de son premier album. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Pour nous retrouver, nous écouter, rendez-vous sur notre site internet rfi.fr à la rubrique podcast. À lundi.